Chapitre 2, l'observation du sabbat. L'observation du sabbat nous réserve de grandes bénédictions, et la volonté du Seigneur est que ce jour soit pour nous un jour de joie. N'est-ce pas dans l'allégresse qu'il a été institué? Dieu contempla l'œuvre de ses mains. Tout ce qu'il avait créé, et il le déclara très bon. Le ciel et la terre exultaient. Les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse, et tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Bien que le péché ait gâté cette œuvre parfaite, le Seigneur nous donne encore le sabbat comme témoin du fait qu'un être tout-puissant, d'une bonté et d'une miséricorde infinie, a créé toutes choses. Par l'observation du jour du repos, notre Père céleste désire conserver parmi les hommes la connaissance de son nom. Il veut nous rappeler par ce jour qu'il est le Dieu vivant et vrai, et que c'est en lui que se trouve la vie et la paix. Lorsque le Seigneur délivra Israël d'Égypte, il lui remit sa loi, et lui fit savoir que l'observation du sabbat le distinguerait des peuples idolâtres. C'est ainsi que l'on verrait ceux qui reconnaîtraient la souveraineté de Dieu, et ceux qui refuseraient de l'accepter comme leur Créateur et leur Roi. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité, a dit l'Éternel. Les enfants d'Israël observeront le sabbat, en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Comme le sabbat était le signe caractéristique d'Israël lorsqu'il sortit d'Égypte pour entrer dans la Canaan terrestre, de même ce jour est le signe distinctif du peuple de Dieu au moment où il se dispose à entrer dans la Canaan céleste. Il indique les liens de parenté qui unissent le Seigneur et son peuple. Par lui on reconnaît que celui-ci honore sa loi. Il distingue ses fidèles sujets de ceux qui transgressent ses commandements. Du haut de la colonne de nuée, le Christ fit cette recommandation, « Vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. » Le sabbat, qui fut donné à l'origine pour rappeler à l'homme que Dieu est le Créateur, lui rappelle aussi qu'il est celui qui le sanctifie. La puissance qui créa toute chose est la même qui recrée l'âme à son image. Pour ceux qui l'observent, le sabbat est donc encore un signe de sanctification. S'ils sont réellement sanctifiés, ils rentrent dans l'harmonie divine, leur caractère est semblable à celui de Dieu. La sanctification est communiquée par la soumission aux principes qui sont l'expression du caractère divin. Le sabbat est par conséquent le signe de l'obéissance. Celui qui observe de tout son cœur le quatrième commandement obéira à toute la loi. Il est sanctifié par l'obéissance. À nous comme à Israël, le sabbat est donné comme une alliance perpétuelle. Pour ceux qui l'honorent, ce saint jour est un gage de la fidélité de Dieu à son alliance. Ils font partie de la chaîne d'or de l'obéissance dont chaque maillon est une promesse. Seul le quatrième précepte du Décalogue porte le sceau du grand législateur, du Créateur du ciel et de la terre. Les observateurs de ce commandement peuvent se réclamer de son nom et jouir de toutes les bénédictions qui en découlent. L'Éternel parla à Moïse, et dit, parla à Aaron et à ses fils, et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi, et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël, et je les bénirai. Cette autre promesse fut aussi faite par Moïse, tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue, tu seras toujours en haut, et tu ne seras jamais en bas, lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Le psalmiste, sous l'inspiration du Saint-Esprit, s'exprime ainsi, venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait, et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, et le troupeau de son pâturage. Ces promesses faites à Israël sont aussi pour le peuple de Dieu d'aujourd'hui. Elles constituent les messages que nous apporte le jour du repos. Réforme dans l'observation du sabbat. Le sabbat est une agrafe d'or qui unit Dieu et son peuple. Mais le quatrième commandement, le saint jour de Dieu, a été violé, profané. L'homme de péché s'est permis de lui substituer un jour ouvrable. Une brèche a été faite à la loi. Elle doit être réparée. Il faut redonner au vrai sabbat sa place légitime comme jour de repos. Au 58e chapitre d'Ésaïe se trouve esquissée la tâche qui incombe au peuple de Dieu. Il doit magnifier la loi et la rendre honorable, rebâtir sur d'anciennes ruines, relever les fondements antiques. À ceux qui s'acquittent de cette tâche, le Seigneur déclare. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondements antiques, on t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Verset 12-14. Le sabbat sera le sujet du grand conflit final auquel le monde entier va prendre part. Les hommes, ayant eu plus d'égard pour les principes de Satan que pour ceux du ciel, ont accepté le faux sabbat que ce dernier a exalté comme signe de son autorité. Mais le Seigneur a placé son sceau sur son précepte royal. Chaque sabbat porte le nom de son auteur, marque indélébile qui indique la provenance de chacun d'eux. Notre tâche est de le démontrer à nos semblables. Faisons-leur comprendre qu'il est bien plus important de porter la marque du royaume de Dieu que celle du royaume de la rébellion, car on est sujet de celui dont on porte la marque. Le Seigneur nous appelle à remettre en honneur son saint jour qui a été foulé aux pieds. De là l'importance de donner le bon exemple touchant l'observation du sabbat. Lorsqu'ils fondent de nouvelles églises, les prédicateurs devraient donner aux membres des instructions précises à cet égard. Prenons garde de ne pas nous laisser aller aux pratiques relâchées qui prévalent chez les observateurs du dimanche. Il faut que la ligne de démarcation soit nettement marquée entre ceux qui portent le sceau de Dieu et ceux qui portent le signe de l'adversaire. Le sabbat est bien plus sacré que ne le supposent beaucoup de ceux qui s'en disent observateurs. Le Seigneur est grandement déshonoré par les hommes qui n'observent ce jour ni selon la lettre ni selon l'esprit. Il nous invite à opérer une réforme à ce sujet. Préparation pour le jour du sabbat. Le Créateur commence le quatrième commandement par ces mots, « Souviens-toi ». Il savait que l'homme, absorbé par ses affaires et ses soucis, serait tenté de ne pas se conformer à toutes les exigences de la loi, ou d'en oublier l'importance sacrée. C'est pourquoi il dit, « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier ». Il faut se souvenir du sabbat pendant toute la semaine afin de se préparer à l'observer selon le commandement. Le jour venu, ne nous reposons pas seulement d'une manière légale, mais comprenons qu'il doit avoir une influence spirituelle sur tout le cours de notre vie. Celui qui considère le sabbat comme un signe entre lui et Dieu, signe indiquant que c'est le Seigneur qui le sanctifie, représente les principes du gouvernement céleste. Dans sa vie de chaque jour, il demandera à Dieu de faire reposer sur lui la bénédiction qui découle de l'observation du sabbat. Chaque jour, il sera en communion avec le Sauveur, et il reflétera la perfection de son caractère. Chaque jour, ses bonnes œuvres feront éclater sa lumière aux yeux de ceux qui l'entourent. Dans tout ce qui concerne les progrès de l'œuvre de Dieu, les premières victoires doivent être remportées dans la famille. C'est là que commence la préparation pour le jour du sabbat. Pendant la semaine, il faut que les parents se souviennent que leur foyer est l'école où leurs enfants se préparent pour les cours célestes. Qu'on n'y prononce donc que des paroles que ceux-ci puissent entendre. Parents, vivez pendant la semaine comment? La présence de Dieu, qui vous a confié vos enfants afin de les élever pour son service. Formez pour celui-ci la petite église qu'est votre foyer de manière que le jour du sabbat chacun soit prêt à rendre un culte au Seigneur. Matin et soir, présentez-les à Dieu comme héritage qu'il s'est acquis au prix de son sang. Enseignez-leur que leur premier devoir et leur plus grand privilège, c'est d'aimer et de servir le Seigneur. Les parents devraient veiller d'une manière toute particulière à faire du culte de famille une leçon de choses pour leurs enfants. Que des passages de l'Écriture soient plus souvent sur leurs lèvres, surtout ceux qui préparent au service religieux. Ces précieuses paroles pourraient être fréquemment répétées, « Mon âme, confie-toi en Dieu. Car de lui vient mon espérance. » Quand on se souviendra ainsi du jour du repos, le temporel n'empiétera pas sur le spirituel. Aucun devoir des 6 jours ouvrables ne sera négligé jusqu'au sabbat. Toutefois, on ne s'épuisera pas pendant la semaine au point que le 7e jour, ce jour où le Seigneur se reposa de ses œuvres, on soit trop fatigué pour vaquer à son service. Mais si toute la semaine doit être consacrée à se préparer pour le jour du sabbat, le vendredi est d'une manière toute spéciale le jour de la préparation. Moïse écrit ces paroles de la part du Seigneur. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel, faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, et mettez en réserve jusqu'au matin ce qui restera. Le peuple se dispersait pour ramasser, la manne. Il la broyait avec des meules, ou la pilait dans un mortier. Il la cuisait au pot, et en faisait des gâteaux. Chaque jour, les enfants d'Israël avaient donc quelque chose à faire pour préparer le pain qui leur était envoyé du ciel. Mais au lieu d'accomplir ce travail le jour du repos, ils devaient s'en acquitter le vendredi, le jour de la préparation. Dieu voulait ainsi les éprouver et voir si, oui ou non, ils sanctifieraient le jour du sabbat. Ces instructions nous sont aussi destinées. La Bible est un guide parfait, et si on l'étudie avec prière, on ne restera pas dans les ténèbres. Ainsi donc, le vendredi, que la préparation soit complète. Assurez-vous que tous les vêtements soient en bon état, et que rien ne reste à cuisiner. Qu'on prenne son bain et que les chaussures soient cirées. Il est possible d'y arriver, si l'on s'en fait une règle. Le sabbat ne doit pas être consacré à raccommoder ses vêtements, à faire la cuisine, à rechercher ses plaisirs, ou à se livrer à quelque autre occupation mondaine. Avant le coucher du soleil, que tout travail séculier soit mis de côté ainsi que tout journal profane. Parents, expliquez à vos enfants ce que vous faites, ainsi que l'objet que vous avez en vue. Qu'ils s'associent à votre préparation afin d'observer le sabbat selon le commandement. Nous devons veiller jalousement sur le commencement et la fin du sabbat. Souvenons-nous que chaque instant de ce jour est saint, consacré au Seigneur. Partout où cela est possible, que les patrons accordent à leurs ouvriers l'après-midi du vendredi. Qu'on donne à ceux-ci le temps de se préparer pour commencer le jour du sabbat dans le calme. En agissant ainsi, vous ne subirez pas même de pertes matérielles. Une autre tâche ne doit pas non plus être négligée le jour de la préparation, c'est celle qui consiste à régler les différends qui auraient pu s'élever, soit dans la famille, soit dans l'église. Que toute amertume, toute colère, toute malice soit bannie du cœur. Confessez humblement vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres. Avant le commencement du sabbat, l'esprit aussi bien que le corps doit être délivré de toute préoccupation d'ordre temporel. Dieu a placé son sabbat à la fin des 6 jours ouvrables afin de nous permettre de considérer ce que nous avons fait pendant la semaine pour nous préparer à occuper une place dans son royaume de pureté où il n'est permis de pénétrer à aucun transgresseur de la loi. Nous devrions chaque sabbat faire un examen de conscience pour nous rendre compte si, pendant la semaine écoulée, nous avons fait des progrès au point de vue spirituel ou si au contraire nous avons rétrogradé. Beaucoup de nos membres ne savent pas comment se comporter au culte le jour du sabbat. Ne nous présentons pas devant le Seigneur en habit de travail. Ayons un vêtement convenable. Bien que nous ne devions pas nous conformer aux usages du monde, il ne faut pas que notre mise soit négligée. Les enfants de Dieu doivent être purs intérieurement et extérieurement. Sanctifier le sabbat, c'est travailler à son salut éternel. J'honorerai celui qui m'honore. Le sabbat au foyer. Avant le coucher du soleil, que les membres de la famille se réunissent pour lire la parole de Dieu, chanter et prier. Une réforme est ici nécessaire, car une certaine négligence s'est manifestée chez un grand nombre à cet égard. Confessons nos fautes au Seigneur et confessons-nous mutuellement. Faisons en sorte que chaque membre de la famille puisse se préparer à honorer le jour que Dieu a béni et sanctifié. Qu'on ne gaspille pas au lit les heures précieuses du sabbat. Que chacun soit debout de bonne heure. Si l'on se lève tard, c'est la confusion et la précipitation dans la préparation du petit déjeuner et de l'école du sabbat. On se hâte, on se bouscule, on s'impatiente. Cela crée des sentiments pénibles. Le sabbat est profané, et sa venue est redoutée plutôt que désirée. Les repas du sabbat ne devraient pas être plus abondants et plus variés que les autres jours. Qu'ils soient au contraire plus simples et que l'on prenne une quantité moindre de nourriture afin que l'esprit soit plus lucide et puisse mieux comprendre les choses spirituelles. Un excès de nourriture alourdit l'esprit. On peut alors entendre les plus belles paroles sans les apprécier. En mangeant plus que de raison le jour du sabbat, beaucoup ont inconsciemment déshonoré Dieu. Si l'on doit éviter de cuisiner le jour du sabbat, il ne s'ensuit pas nécessairement qu'il faille manger froid. En hiver, qu'on réchauffe les aliments préparés la veille, et que les repas, bien que simples, soient bons et appétissants. Qu'on prépare ce jour-là un plat qui soit considéré comme un régal et qui ne paraisse pas sur la table chaque jour. Que les enfants participent au culte de famille. Que chacun prenne sa Bible et lise un ou deux versets. Qu'on chante ensuite un cantique, suivi de la prière. Celle-ci doit être faite selon le modèle que Jésus nous a laissé. L'oraison dominicale n'était pas destinée à être répétée mot à mot, mais c'est une illustration de ce que devraient être nos prières. Simple, fervente, renfermant beaucoup ou peu de mots. Exposez simplement au Seigneur vos besoins, et exprimez-lui votre reconnaissance pour ses bontés à votre égard. Il sera ainsi l'hôte bienvenu dans votre foyer et dans votre cœur. En famille, de longues prières n'ayant aucun rapport avec votre foyer n'ont pas leur raison d'être. Elles font de l'heure de la prière une heure de fatigue, alors que celle-ci devrait être un privilège et une bénédiction. Que ce soit plutôt un moment plein d'intérêt et de joie. L'école du sabbat et le culte n'occupent qu'une partie du jour du repos. Les heures qui restent doivent être pour la famille les plus précieuses et plus sacrées du sabbat. Que les parents passent la plus grande partie de ce temps avec leurs enfants. Dans bien des foyers, les plus jeunes sont abandonnés à eux-mêmes et passent leur temps le mieux qu'ils peuvent. Ils ne tardent pas à devenir remuants. Ils commencent à jouer ou à faire des polissonneries. Le sabbat perd ainsi à leurs yeux sa nature sacrée. Quand il fait beau, que les parents fassent avec leurs enfants des promenades dans les champs ou dans les bois. Là, au milieu de la belle nature, qu'ils leur expliquent pourquoi le sabbat fut institué. Qu'ils leur parlent de la grande œuvre créatrice de Dieu. Qu'ils leur disent que lorsque la terre sortit des mains du Créateur, elle était sainte et belle. Chaque fleur, chaque arbuste, chaque arbre répondait au but qu'ils s'étaient proposé. Ou que l'œil se posa, il ne voyait que des choses admirables révélant l'amour de Dieu. Chaque son émis était une musique qui se joignait à l'harmonie divine. Qu'on explique aux enfants que c'est le péché qui a gâté l'œuvre parfaite de Dieu. Que les épines et les chardons, la tristesse, la douleur et la mort sont les conséquences de la désobéissance. Qu'on leur fasse observer comment la terre, bien que sous le poids de la malédiction du péché, révèle encore la bonté de Dieu. La prairie verdoyante, l'arbre majestueux, le gai rayon de soleil, les nuages, la rosée, le calme solennel de la nuit, la splendeur du ciel étoilé, la lune dans sa beauté, tout porte l'empreinte du Créateur. Il n'est pas jusqu'à la goutte de pluie qui tombe, au rayon de soleil qui éclaire notre monde ingrat qui ne témoigne de la patience et de l'amour du Seigneur. Parents, enseignez à vos enfants la voie du salut. Dites-leur que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Racontez-leur la douce histoire de Bethléem. Montrez-leur comment, enfant, Jésus obéissait à ses parents. Comment, jeune homme, il était fidèle et actif, contribuant à subvenir aux besoins de la famille. Vous pourrez ainsi leur faire comprendre que le Sauveur connaît les épreuves, les difficultés, les tentations, les aspirations et les joies des jeunes, et qu'il peut sympathiser avec eux, et les aider. Lisez de temps à autre avec eux les récits intéressants de l'histoire biblique. Interrogez-les sur ce qu'ils ont appris à l'école du sabbat, et étudiez avec eux la leçon du sabbat suivant. Au coucher du soleil, que la prière et le chant d'un cantique marquent la fin des heures sacrées, et sollicitent la présence de Dieu pour la semaine de labeur qui va commencer. Les parents peuvent ainsi faire du sabbat ce qu'il doit être, le plus beau des jours de la semaine, et amener leurs enfants à le considérer comme un jour de délices, le jour des jours, le jour sacré du Seigneur, le jour honorable. Frères et sœurs, je vous le conseille, souvenez-vous du jour du repos pour le sanctifier. Si vous voulez que vos enfants l'observent selon le commandement, vous devez le leur enseigner par le précepte et par l'exemple. La vérité profondément gravée dans le cœur peut être obscurcie mais elle ne s'efface jamais complètement. Les impressions de l'enfance seront encore visibles bien des années plus tard. Les circonstances amèneront peut-être les enfants à s'éloigner des parents, mais aussi longtemps qu'ils vivront ils se souviendront des instructions reçues dans leur enfance et leur jeunesse. Les voyages le jour du sabbat. Si vous voulez participer aux bénédictions promises à ceux qui obéissent, il vous faut observer le sabbat plus strictement. Je crains que nous ne voyagions trop souvent ce jour-là, alors qu'on pourrait l'éviter. D'après la lumière que le Seigneur m'a donnée à cet égard, nous devrions moins employer les bateaux et le chemin de fer, et montrer ainsi à nos enfants, et à la jeunesse le bon exemple. Pour apporter aux églises le message que le Seigneur leur destine, il peut arriver qu'il faille voyager le jour du sabbat. Mais autant que possible procurons-nous notre billet et faisons les arrangements nécessaires à notre jour. Lorsque nous entreprenons un voyage important, il faut s'arranger de manière à ne pas arriver à destination le sabbat. Quand on ne peut faire autrement, cherchons à fuir, ce jour-là, la compagnie de ceux qui nous entretiendraient de choses temporelles. Évitons de parler d'affaires ou de nous engager dans des entretiens ordinaires ou mondains. Fixons notre attention sur le Seigneur et restons en communion avec lui. Efforçons-nous d'amener la conversation sur la vérité évangélique. Soyons toujours prêts à soulager ceux qui souffrent et à secourir les nécessiteux. Faisons alors usage de la connaissance et de la sagesse que le ciel nous a accordées. En tout temps et en tout lieu, Dieu exige que nous lui prouvions notre fidélité en honorant le sabbat. Les assemblées du sabbat. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, a dit le Christ, je suis au milieu d'eux. Partout où se trouvent deux ou trois croyants, leur devoir est de se réunir le jour du sabbat et de se réclamer de cette promesse du Seigneur. Les petits groupes qui s'assemblent pour adorer Dieu en son saint jour ont droit à la riche bénédiction de Jéhovah. Qu'ils soient assurés que Jésus est l'hôte honoré de leur réunion. Tout vrai croyant qui sanctifie le jour du sabbat peut s'appuyer sur cette déclaration de l'Écriture, « Je suis l'Éternel qui vous sanctifie ». Que la prédication du sabbat soit généralement courte. Donnons à ceux qui aiment Dieu l'occasion de l'exprimer. Si l'Église n'a pas de pasteur, un frère qualifié sera chargé de présider le service. Mais il n'est pas nécessaire qu'il fasse un sermon ou qu'il occupe la plus grande partie du temps consacré au culte. Le plus souvent, une simple étude biblique fera beaucoup plus de bien qu'un sermon. Celle-ci peut être suivie d'une réunion de prière ou d'édification mutuelle. Ceux qui sont à la tête d'une église ne devraient pas épuiser toutes leurs forces physiques et mentales pendant la semaine, au point que le sabbat venu ils ne puissent apporter aux réunions l'influence vivifiante de l'évangile du Christ. Travaillez moins pendant la semaine, et ne dérobez pas Dieu en lui offrant, le jour du sabbat, un culte qu'il ne puisse agréer. Ne soyez pas des hommes dépourvus de spiritualité. Le jour du sabbat vos frères ont besoin de votre concours. Nourrissez-les de la parole. Apportez au Seigneur vos meilleurs talents. Offrez-lui votre âme sanctifiée dans un culte véritable. Que nul ne se rende au culte pour sommeiller. Il n'y a pas de place pour les dormeurs dans la maison de Dieu. Vous ne dormez pas lorsque vous vous occupez de vos affaires temporelles, parce qu'elles vous intéressent. Accorderez-vous au culte dont dépendent vos intérêts éternels moins d'importance qu'aux affaires de ce monde ? Celui qui le fait se prive des bénédictions que le Seigneur lui réserve. Le sabbat ne doit pas être un jour d'oisiveté stérile. Il faut faire preuve, tant à la maison qu'à l'église, du désir de se rendre utile. Celui qui nous a donné 6 jours pour travailler, s'est réservé le 7e qu'il a béni et sanctifié. En ce jour, il veut bénir d'une manière toute particulière ceux qui se consacrent à son service. Le ciel entier observe le sabbat. Mais non dans l'oisiveté, et dans l'indolence. En ce jour toutes les énergies de l'âme doivent être mises à réquisition. Ne nous préparons-nous pas à rencontrer Dieu et le Christ, notre Sauveur ? Contemplons le Seigneur par la foi. Il ne demande qu'à vivifier et à bénir tous ses enfants. Chacun devrait se rendre compte que son devoir est de contribuer à rendre intéressantes les assemblées du sabbat. Ne vous réunissez pas seulement pour la forme, mais pour échanger vos pensées, pour vous faire part de vos expériences quotidiennes, pour exprimer votre gratitude et votre désir sincère de recevoir la lumière divine afin de mieux connaître Dieu et Jésus-Christ qui l'a envoyé. En parlant ensemble du Christ, vous vous fortifierez pour affronter les épreuves et les luttes de la vie. Ne croyez pas que vous pouvez être chrétien et vous renfermer en vous-même. Nous faisons tous partie de la grande famille humaine, et la conduite de chacun est fortement influencée par celle des autres. Nous ne retirons pas la 1/100 des bénédictions que les services du sabbat sont destinés à nous procurer. Nos facultés de perception ont besoin d'être développées. La communion fraternelle devrait nous réjouir. Avec l'espérance qui est la nôtre, pourquoi nos cœurs ne déborderaient-ils pas de l'amour de Dieu ? Chaque fois que nous nous rendons à un service religieux, nous devrions être convaincus que le Seigneur et ses anges nous y ont dévancés pour collaborer avec tous les vrais adorateurs. En entrant dans le lieu de culte, demandez à Dieu de bannir toute mauvaise pensée de votre cœur. N'apportez à sa maison que ce qu'il peut bénir. Mettez-vous à genoux et consacrez-lui ce qui lui appartient et qu'il a racheté par le sang du Christ. Priez pour le pasteur, ou celui qui préside le culte. Demandez au Seigneur qu'il bénisse abondamment le frère qui rompt le pain de vie. Efforcez-vous de participer vous-même à cette bénédiction. Le ciel assistera tous ceux qui se préparent ainsi au saint service du sabbat. Ils sauront ce qu'est le témoignage de l'Esprit, car ils auront reçu dans leur cœur le Christ par la foi. Le lieu de culte peut être des plus modestes, il n'en est pas moins agréé de Dieu. Les fidèles, bien que peu nombreux, sont néanmoins très précieux à ses yeux. Pour ceux qui adorent en esprit et en vérité, ce sera la porte du ciel. La vérité divine les attirait, telles des pierres brutes, de la carrière du monde, pour être taillées. Le marteau et le ciseau du parfait artiste les poliront comme des diamants pour qu'ils trouvent une place dans le temple céleste. Les dons et les bénédictions que nous octroie le Seigneur surpassent toute connaissance. Le trône de la grâce est lui-même le centre d'attraction le plus puissant de l'univers, car celui qui l'occupe nous autorise à l'appeler Père. Mais Dieu n'a pas jugé que l'œuvre du salut était complète aussi longtemps qu'elle dépendait uniquement de son amour. Il a choisi un avocat revêtu de notre nature et l'a placé auprès de lui. En sa qualité d'intercesseur, cet avocat a pour mission de nous présenter à Dieu comme ses enfants. Il intercède pour ceux qui l'ont reçu. En vertu de ses mérites, Il leur donne la possibilité de devenir membres de la famille royale, sujet du roi du ciel. Et c'est en accueillant comme ses amis ceux du Christ que Dieu montre son amour infini pour le Sauveur qui a versé son sang comme prix de leur rédemption. Il est satisfait du sacrifice expiatoire. L'incarnation, la vie, la mort et la médiation de son Fils, tout contribue à sa gloire. Dès que l'enfant de Dieu s'est approché du propitiatoire, il est défendu par le grand avocat. Dès qu'il a prononcé une parole de repentir et imploré le pardon du ciel, le Sauveur épouse sa cause, et en son propre nom, il présente ses supplications devant le Père. Lorsque le Christ intercède en notre faveur, Dieu met à notre disposition tous les trésors de sa grâce. Nous pouvons dès lors en jouir et les communiquer à ceux qui nous entourent. Demandez en mon nom, dit Jésus. Je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé. Réclamez-vous de mon nom, cela donnera de l'efficacité à vos prières, et le Père vous communiquera les richesses de sa grâce. Demandez, et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Dieu veut que ses enfants implorent sa bénédiction et fassent monter vers lui des louanges et des actions de grâce. Il est la source de la vie et de la force. Pour ceux qui gardent ses commandements, il peut transformer le désert en un champ fertile. Car c'est là la gloire de son nom. Ce qu'il a opéré en faveur de son peuple devrait faire déborder tous les cœurs de sentiments de reconnaissance. Il est contristé lorsqu'il constate notre peu d'empressement à le louer. Il aimerait que son peuple manifestât plus ouvertement sa gratitude, car celui-ci a des raisons de se réjouir. Comptez les bienfaits de Dieu. Les manifestations de l'amour de Dieu envers ses enfants devraient faire fréquemment le sujet de nos entretiens. Que de fois dans le passé le Seigneur n'a-t-il pas conseillé de dresser des monuments pour rappeler ses prodiges à son peuple? Pour que celui-ci n'oublie pas son histoire, Dieu ordonna à Moïse de la rappeler dans des chants que les parents devaient apprendre à leurs enfants. Il fallait ériger ces monuments dans les endroits où ils frapperaient le plus l'attention, et veiller d'une manière toute particulière à leur conservation. Lorsque les enfants en demanderaient la signification, on leur donnerait une leçon d'histoire. C'est ainsi qu'était conservée la mémoire de la bonté et de la miséricorde de Dieu envers son peuple, ainsi que la sollicitude avec laquelle il avait veillé sur lui pour le libérer. L'Épître aux Hébreux nous exhorte en ces termes, « Souvenez-vous de ces premiers jours, où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Dieu n'a cessé de se manifester à son peuple comme le Dieu des miracles. L'histoire de sa cause dans le passé doit être souvent rappelée à ses enfants, jeunes et vieux. Nous avons besoin de nous entretenir fréquemment de la bonté du Seigneur, afin de le louer pour ses œuvres merveilleuses. Nous sommes exhortés à ne pas négliger nos assemblées. Toutefois, celles-ci ne devraient pas seulement viser à notre propre édification, mais nous inspirer le désir ardent de communiquer à d'autres les bénédictions que nous y avons reçues. Notre devoir est donc de nous montrer jaloux de la gloire de Dieu. Évitons tout ce qui pourrait en ternir l'éclat, et ne donnons à personne l'impression par nos discours, par la tristesse empreinte sur notre visage, ou par quelques paroles intempestives, que les préceptes divins entravent notre liberté. Le Seigneur veut que nous soyons, même dans ce monde de tristesse, de désappointement et de péché, joyeux et forts de sa force. Par notre attitude, nous pouvons rendre un témoignage positif à tous égards. Notre manière d'être, notre humeur, nos paroles, tout dira qu'il fait bon à son service. C'est ainsi que nous proclamerons que la loi de l'Éternel est parfaite, qu'elle restaure l'âme. Le côté lumineux et réjouissant de notre religion sera représenté par ceux qui se consacrent à Dieu chaque jour. Nous ne devons pas déshonorer le Seigneur par le lamentable récit de nos épreuves, car si celles-ci sont acceptées comme des moyens d'éducation, elles seront pour nous un sujet de joie, et toute notre vie religieuse nous élèvera, nous ennoblira et sera imprégnée du parfum suave de nos bonnes paroles et de nos bonnes actions. L'ennemi triomphe quand il voit les âmes déprimées, abattus, se lamenter et gémir. Son désir est de faire croire que ce sont là les conséquences de la foi. Mais le Seigneur ne veut pas nous voir découragés. Il désire au contraire que toute âme triomphe sous la puissante protection du Rédempteur. Le psalmiste s'écrie, « Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé, tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel, mon Dieu. J'ai crié à toi, et tu m'as guéri. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté. L'Église militante et l'Église triomphante. L'Église de Dieu sur la terre ne forme qu'un corps avec celle qui est dans le ciel. Les croyants d'ici-bas et les êtres célestes qui n'ont pas connu le péché constituent une seule et même Église. Toutes les intelligences de l'au-delà s'intéressent aux assemblées des saints qui adorent Dieu en ce monde. Dans les cours célestes, ils prêtent une oreille attentive aux paroles des témoins du Christ qui se trouvent sur la terre, et les expressions de louange et de reconnaissance de ceux-ci sont répétées dans les parvis célestes où retentissent des cris de réjouissance, parce que le Christ n'est pas mort en vain pour les fils déchus d'Adam. Alors que les anges se désaltèrent à la source, les saints sur la terre boivent l'eau pure des ruisseaux qui sortent du trône de Dieu et réjouissent la cité céleste. Ah ! Si nous pouvions voir combien le ciel est près de la terre. Sans qu'ils s'en rendent compte, les enfants de Dieu ont des anges pour compagnons. Un témoin silencieux garde toute âme et s'efforce de l'amener au Christ. Aussi longtemps qu'on n'a pas résisté au Saint-Esprit, on est gardé par les intelligences célestes. Souvenons-nous que les anges de Dieu sont présents à toutes nos assemblées. Ils écoutent nos chants, nos témoignages et nos prières. Sachons que le cœur des anges supplée à l'insuffisance de nos louanges. Quand vous vous réunissez le jour du sabbat, chantez donc les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Rendez hommage à celui qui nous aime, et qui nous a lavés de nos péchés par son sang. Que l'amour du Christ soit le grand thème du prédicateur. Que cet amour soit exprimé simplement dans chaque cantique, et nos prières, dictées par l'Esprit. Lorsque vous entendez la parole, que la réponse empressée de votre cœur témoigne que vous recevez un message directement du ciel. Je sais que certains diront que c'est vieux jeu. Mais ce sera de votre part un sacrifice d'action de grâce rendu à Dieu pour le pain de vie. Cette réponse à l'inspiration du Saint-Esprit fortifiera votre âme et en encouragera d'autres. Ce sera une preuve qu'il y a dans l'édifice de Dieu des pierres vivantes qui projettent leur lumière. Lorsque nous récapitulerons non les tristes chapitres de notre existence, mais les manifestations de la miséricorde de Dieu et de son amour inaltérable, la louange sera beaucoup plus fréquente sur nos lèvres que le murmure. Nous parlerons de la fidélité du divin berger. Sa sollicitude et ses compassions à l'égard de son troupeau sont telles qu'il a déclaré que nul ne le ravirait de sa main. Le langage du cœur ne sera plus le murmure de l'égoïsme, ni les récriminations. Les louanges jailliront des lèvres des fidèles comme l'eau claire et limpide du ruisseau. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre je ne prends de plaisir qu'en toi. Pourquoi nos hymnes spirituels ne retentiraient-ils pas à nouveau au cours des étapes de notre pèlerinage? Pourquoi ne reviendrions-nous pas à notre simplicité, et à notre ferveur d'antan? La raison pour laquelle nous manifestons si peu de joie, c'est que nous avons perdu notre premier amour. Ayons donc du zèle et repentons-nous, afin que notre chandelier ne soit pas ôté de sa place. Le temple de Dieu est ouvert dans le ciel, et le seuil est tout illuminé de la gloire destinée à toutes les églises qui aiment Dieu et gardent ses commandements. Étudions, méditons, prions. Nous posséderons alors le discernement spirituel nécessaire. Nous nous joindrons au cœur des anges qui entourent le trône de Dieu pour chanter des cantiques d'action de grâce. Lorsque Sion se lèvera et sera illuminée, sa lumière sera des plus pénétrantes, et des chants de louange et de gratitude se feront entendre dans l'assemblée des saints. Les murmures et les plaintes touchant de petits désappointements disparaîtront. Si nous faisons usage du collyre divin, nous verrons la gloire de l'au-delà. La foi dissipera les ténèbres épaisses de Satan, et nous contemplerons notre avocat qui offre en notre faveur l'encens de ses mérites. En voyant les choses telles qu'elles sont, et telles que Dieu veut que nous les concevions, nous serons remplis du sentiment de l'immensité et de la diversité de l'amour divin. Le Seigneur veut que nous nous réunissions dans sa maison pour y cultiver les attributs de l'amour parfait. C'est ainsi que les habitants de la terre seront préparés pour les demeures que le Christ est allé édifier au ciel pour tout ce qu'il aime. Alors ils s'assembleront dans le sanctuaire chaque nouvelle lune et chaque sabbat pour exécuter les chants les plus sublimes. Ils feront monter sans cesse devant celui qui est assis sur le trône et devant l'agneau des louanges et des actions de grâce.